Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Jésus, aujourd'hui, pleure sur Jérusalem. Il pleure car Jérusalem n'a pas connu la source de la paix qu'il était lui-même. Et c'est ce drame du peuple juif que de ne pas voir véritablement qui est son sauveur, qui est le Messie, qui est celui qui peut, en les sauvant, leur apporter la paix. C'est pourquoi, ne voyant pas, eh bien, au Moyen Âge, on représentait souvent la synagogue avec les yeux voilés. Le Christ prophétise sur la ruine de Jérusalem, qui aura effectivement lieu en 70 après Jésus-Christ. Cette destruction totale avait été annoncée. Et notre Seigneur, après cette annonce, eh bien, et après avoir pleuré, va s'attacher à purifier ce temple de ces marchands qui sont plus voleurs que marchands. Alors il peut véritablement enseigner parce que l'honneur de Dieu a été rétabli dans le Saint-Temple. Et cette Jérusalem est aussi l'image d'autres Jérusalem, vous le savez. C'est l'image de l'Église aussi. L'Église, eh bien, va être la nouvelle Jérusalem. Elle est la nouvelle Jérusalem, et au lieu d'être détruite et où il ne resterait plus pierre sur pierre, eh bien, au contraire, notre Seigneur dit à Simon, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Autant la Jérusalem d'autrefois a sombré, il ne reste plus pierre sur pierre, autant l'église fondée sur pierre, eh bien, est absolument indestructible. Et on le voit, cela fait 2000 ans que l'Église existe, cela fait 2000 ans qu'elle résiste aux adversaires de l'extérieur comme aussi bien de l'intérieur. Et elle reste là, toujours aussi belle pour ceux qui ont évidemment les yeux de la foi. L'Église, elle va, contrairement à l'ancienne Jérusalem, elle va accueillir le Christ. Elle va le proclamer véritablement son roi et même plus encore son époux. Car les rapports qu'il y a entre l'Église et le Christ sont bien des rapports nuptiaux, à savoir, eh bien, le Christ est l'époux, l'Église est l'épouse. L'Église a donc accueilli la visite de Dieu. Les apôtres ont accueilli le Christ véritablement par la profession de foi de saint Pierre. Et pour vous, qui suis-je? Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà l'accueil de l'Église, l'accueil parfait, l'accueil dans la foi. À toutes les époques, néanmoins, il faudra une purification des membres de l'Église. Car si sainte et immaculée elle est, les hommes qui la composent, hormis la Sainte Vierge, ne le sont pas. Et donc il faudra systématiquement une purification qui est régulièrement demandée par les souverains pontifes et par les pasteurs de l'Église. Le Christ, alors, pourra toujours plus enseigner à travers cette Église, qui est la Nouvelle Jérusalem, à travers l'Église qui est le nouveau temple de Dieu, par les médiateurs que sont évidemment le souverain pontife et les évêques qui représentent l'Église enseignante. Mais Jérusalem, ce n'est pas seulement, c'est la nouvelle Jérusalem, n'est pas seulement l'Église, c'est aussi notre âme. Notre âme qui doit se débarrasser des marchands du temple, qui doit, c'est-à-dire, eh bien, tous ceux qui en nous, eh bien, sont des traîtres. Tous ceux qui en nous, au lieu de prier, au lieu de nous tourner vers Dieu, voient son intérêt propre. Et combien de choses en nous, nos petites habitudes mauvaises, nos petits mauvais penchants, eh bien, tirent toutes les choses, même spirituelles, à notre profit et non pas d'abord et avant tout pour Dieu. Il faut se purifier également pour accueillir le Christ, pour qu'il puisse enseigner avec efficacité. Et enfin, il faut le laisser nous enseigner par la méditation de la parole de Dieu régulière, par une bonne retraite, par des lectures, en accueillant également toutes les bonnes inspirations que le bon Dieu veut nous donner. Alors oui, dans ce cas-là, le Christ, dans notre cœur, dans notre âme, sera véritablement celui qui enseigne dans le temple, parce que nous sommes, depuis notre baptême, temple du Saint-Esprit. Sinon, il y a la tentation. Certes, saint Paul, dans son épître, nous rappelle que la tentation n'est jamais au-delà de nos propres forces. Mais attention, nos propres forces, incluant ici la grâce. Sinon, on sait bien que la tentation nous balaye si nous n'avons pas pris la mesure de la chose, à savoir être dans la grâce de Dieu, sans quoi la tentation aura raison de nous. Mais saint Paul nous dit attention que l'homme qui est debout prenne garde de tomber. C'est vrai, il faut de la prudence. Mais on sait aussi qu'avec la grâce de Dieu, on peut refuser la tentation. Et pas de manière théorique, de manière pratique. On peut la refuser, on peut la surmonter. La grâce de Dieu nous est toujours donnée. Sinon, c'est la ruine de l'âme assurée. Et alors les ennemis, vont faire un véritable travail de sape, comme dit notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vont faire un blocus, ils vont entourer et ils vont faire crouler les défenses ordinaires que nous avons. Aussi, la prière commence à devenir tiède, molle, sans force. Et alors, c'est un pan de la muraille qui tombe. Nos vertus, qui étaient pourtant assez assurées, par le laisser-aller, par la tiédeur, commencent par quelques actes à être sapés également. Et alors, un autre pan de la muraille tombe. Et alors, toutes nos défenses spirituelles tombent. Attention, chers amis, que dans ce temps de vacances, ce soit un vrai temps spirituel, un temps où, justement, il n'y ait pas de mollesse, de tiédeur spirituelle, au contraire, un temps où on a peut-être un peu plus le temps pour penser à Dieu, ou alors, au moins, il faut s'y mettre pour que cela devienne un temps favorable à notre avancée spirituelle. C'est ce que nous demanderons au Seigneur, de nous donner toujours les grâces dans la tentation, et puis également de nous rendre forts pour pouvoir toujours plus l'écouter dans notre cœur, ainsi soit-il. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.